Et afin que concorde, paix et tranquillité entre les royaumes de France et d'Angleterre soient pour le temps à venir perpétuellement observés, que de la vie et consentement des trois États des dix royaumes soient ordonnés et pourvus, que du temps que notre fils sera venu à la couronne de France, ou aucun de ses wars, les deux couronnes de France et d'Angleterre à toujours, mais perpétuellement, demeureront ensemble et seront en une même personne, qui sera pour le temps roi et seigneur souverain de l'un et l'autre royaume, comme dité, en gardant toutefois en toute autre chose, à l'un et à l'autre royaume, ses droits, libertés et coutumes, usages et lois. Extrait de l'article 24 du traité de Troyes de 1420.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Dans la continuité de l'histoire d'Angleterre que je propose pour plusieurs séances des fenêtres de l'histoire, je vous propose aujourd'hui de regarder un premier temps sur la guerre de Cent Ans, mais vu par l'Angleterre. Car effectivement, mon propos est bien une histoire de l'Angleterre. Alors il faut d'abord se tourner vers les causes du conflit vues du côté anglais. Vous vous souvenez, lors de notre précédente chronique, que la couronne de France avait récupéré bien des territoires de la monarchie des Plantagenets, en particulier la Normandie, le Poitou, l'Anjou, et que finalement l'Angleterre gardait seulement l'Aquitaine. Et le traité de Paris de 1259, signé entre Henri III d'Angleterre et Louis IX de France, avait porté reconnaissance de la possession de l'Aquitaine à l'Angleterre contre l'hommage du roi anglais au roi de France. En fait, un vassal prétend et jurant fidélité à son suzerain. En cas de non-respect de ce traité et de ce jurement, eh bien, il y avait une menace de la confiscation du duché d'Aquitaine, ce qui est d'ailleurs advenu en 1294 par Philippe le Bel et encore dans les années 1320, le conflit entre Édouard II puis Édouard III et le roi Charles IV avait provoqué effectivement une nouvelle confiscation en 1323. Et nous sommes là face à une première difficulté du côté anglais, c'est l'hommage vassalique. Effectivement, le roi d'Angleterre vit difficilement cette habitude féodale où un vassal jure fidélité et jure aide à son suzerain. Or, au nom du fief d'Aquitaine, eh bien, le roi d'Angleterre devait prêter serment, en particulier au travers de l'hommage lige, à son suzerain français. Et là, il y avait une première difficulté, car cela ne se faisait pas toujours spontanément. Deuxième difficulté, c'est la question de la succession au trône de France. En 1328, Charles IV est mort sans succession mâle. Aussi, Édouard III, qui règne depuis 1327, après avoir bénéficié de la déposition de son père Édouard II, est le petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabelle. Or, il va demander, à la mort de son oncle, eh bien, la possibilité de se faire respecter son droit d'obtenir la couronne de France, puisque sa mère est une princesse française, fille de Philippe le Bel. Or, les barons français, les élites du royaume, ont des difficultés à voir éventuellement un fils d'Angleterre devenir roi de France, surtout par le biais d'une femme. Aussi va-t-on sortir des armoiries la vieille loi salique, précisant qu'une femme ne pouvait transmettre un droit qu'elle ne saurait elle-même exercer. C'est-à-dire que la possession, la dévolution à la couronne ne pouvait se faire par les femmes. Aussi, prend-on comme souverain un membre de la famille Valois, Philippe VI. Édouard III, bon an, mal an, accepte un hommage simple en 1329 et un hommage lige en 1331. Seulement, cette situation ne dure pas. Car effectivement, des tensions, des revendications régulières sur la couronne de France ont lieu en Angleterre. Aussi, le 24 mai 1337, Philippe VI décide de frapper en prononçant la confiscation de l'Aquitaine. C'est le début d'une guerre ouverte, dont bien sûr aucun des contemporains n'envisage encore la durée. Il y a enfin une autre raison qu'il faut tout de même souligner, c'est la raison, je dirais, conception du pouvoir et de conception économique. En effet, la couronne de France, tout en respectant les privilèges régionaux des diverses régions du royaume, avait une tendance quand même plus centralisatrice que la couronne d'Angleterre, ce qui fait qu'en fait, il y a des grands féodaux qui ont du mal à accepter cette tentative de mainmise. C'est finalement le cas du duc d'Aquitaine, qui est à la fois roi d'Angleterre, mais on le retrouvera aussi chez les ducs de Bretagne et, au début du XVe siècle, chez les ducs de Bourgogne. Inversement, l'Angleterre est assez fâchée de voir la France soutenir les efforts que le royaume d'Écosse fait régulièrement contre l'Angleterre. Sur le plan économique, eh bien, il y a une guerre depuis la fin du XIIIe siècle, début XIVe siècle, pour la maîtrise des côtes atlantiques. Et il y a des querelles qui n'en finissent pas, de même dans la Manche, dans la mer du Nord. Parce que si vous maîtrisez la Manche et la mer du Nord, sur le plan maritime, vous facilitez le commerce avec la très riche région des Flandres. Donc il ne faut pas sans doute négliger cet aspect-là du conflit. Il n'est pas question pour moi, au regard du temps imparti, de rentrer dans tous les détails militaires, bien sûr, de la guerre de Cent Ans. Je voudrais juste préciser, du côté anglais, les principaux aspects. La guerre commence plutôt bien pour les armes anglaises, puisqu'il y a, en 1340, une première victoire navale à l'Écluse sur les côtes de Flandre. Mais c'est surtout les batailles terrestres qui vont fortement marquer les contemporains. Le 26 août 1346, le roi Philippe VI est vaincu à Crécy, et là on voit l'efficacité de la stratégie anglaise sur le plan militaire grâce aux archers qui vont tailler menu les chevaliers français. De même, le 4 août 1347, c'est-à-dire presque un an après, les Anglais s'emparent du port de Calais, ce qui est évidemment un pied-à-terre extrêmement important dans le nord de la France. Ces succès sont suivis par une pause à cause de la peste noire. En effet, celle-ci a frappé d'abord la France, puis l'Angleterre, et donc il y a une trêve, je dirais, par épuisement des combattants. Mais la guerre n'est pas terminée et le 19 septembre 1356, les Anglais emportent la victoire de Poitiers. C'est la stratégie du prince noir, le prince Édouard, fils d'Édouard III, qui l'emporte et qui fait prisonnier Jean II, roi de France. La guerre, décidément, tourne bien mal pour la France à l'avantage de l'Angleterre. En 1360, le traité de Brétigny vient concrétiser les succès anglais. En effet, il y a la confirmation de l'Aquitaine, mais également la prise du Poitou, de l'Armagnac, du Quercy, d'une grande partie de la Saintonge, et puis on confirme aux Anglais la possession de Calais. Quand il devient roi de France, Charles V, en 1364, va entamer une politique à la fois prudente mais qui ne veut pas accepter les clauses du traité de Brétigny. Il va, avec l'aide de son connétable, le fameux Bertrand du Guesclin, entamer à partir de 1369 ce qu'on pourrait appeler une guerre de grignotage pour non pas défier l'Angleterre au travers de grandes batailles comme Poitiers ou Crécy, mais plutôt par une guérilla qui va progressivement épuiser les Anglais présents en France. Et effectivement, à la mort du roi Charles V en 1380, eh bien, la France a réussi à récupérer une grande partie des territoires concédés au traité de Brétigny. Il ne reste plus que l'Aquitaine aux Anglais. Seulement, les circonstances vont jouer en faveur de l'Angleterre. Certes, une trêve de 28 ans avait été signée en 1396. Mais les trêves ne durent finalement que ce que veulent les politiques. Et en fait, dès 1399, il y a d'autres problèmes qui voient le jour. En Angleterre, parce qu'il y a la disparition du roi Richard II, remplacé par Henri IV, et surtout remplacé en 1413 par Henri V. Or, celui-ci a de grands projets pour l'Angleterre. Il veut reprendre la guerre sur le sol français, profitant d'une situation assez confuse par moments, puisque le roi Charles VI n'a pas tout son esprit tout au long de son règne. Il a des crises de folie, de démence, où il ne peut gouverner. Et en fait, le pouvoir est dans les mains des oncles du roi, et en particulier du duc d'Orléans, du duc de Bourgogne. Aussi décide-t-il de débarquer en Normandie, près d'Honfleur, et il va défier le 25 octobre 1415 l'armée française à Azincourt. C'est un triomphe pour Henri V et un massacre, un nouveau massacre, suis-je tenté de dire, pour la chevalerie française. Aussi, nous arrivons à un traité qui est a priori, un triomphe pour la couronne d'Angleterre, c'est le traité de Troyes du 21 mai 1420, où il est prévu une véritable double monarchie avec un seul souverain, d'abord le malheureux Charles VI, puis il est prévu que ce soit Henri V à sa mort, et il est question finalement d'un nouvel État dans la chrétienté occidentale, un seul roi, deux entités, et de ce point de vue-là, si le système du traité de Troyes avait fonctionné, l'histoire de l'Occident médiéval aurait été sans doute profondément transformée.